458 BC,
en l'an 458 de notre ère, une grande armée romaine se retrouva cernée par une force ennemie très importante. Sans aucun espoir de survie, son destin était scellé. Et le Sénat romain, pris de panique, autorisa immédiatement la nomination d'un dictateur pour tenter de sauver la situation, Lucius Quinctius Cincinnatus, ou Cincinnatus, un ancien consul à la retraite. Cincinnatus appela immédiatement tous les hommes en âge de porter les armes à se présenter au service militaire et il fit marcher cette armée sans délai sur le lieu de l'attaque. Il réussit ainsi à piéger l'ennemi entre son armée et l'armée romaine assiégée, obtenant la reddition de l'ennemi et une grande victoire romaine. Bien sûr, les victoires militaires vont et viennent, mais ce que fit Cincinnatus ici est très intéressant. Plutôt que de tuer ses ennemis pris au piège, Cincinnatus accepta leurs supplications et il leur offrit l'amnistie. Il dressa un joug de 3 lances, l'une de chaque côté, et une lance en travers du sommet. L'ennemi se rendit et fut obligé de passer sous ce joug en signe de soumission. Il s'inclina, il admit sa défaite, il passa sous le joug pour être finalement libéré. Cincinnatus licencia ensuite son armée et il retourna à sa ferme, abandonnant son contrôle militaire et sa dictature d'à peine 15 jours. Une légende de grande influence se perpétua depuis, et des hommes comme George Washington se sont efforcés d'imiter cet exemple de service public. Bien que cet exemple historique soit intéressant, je voudrais me concentrer sur le joug sous lequel Cincinnatus a fait passer les guerriers vaincus. Bien que ce joug soit un assemblage symbolique de lances attachées ensemble, il devait symboliser la réalité, un joug utilisé par les animaux de trait pour accomplir leur travail. Le mot « joug » se trouve à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. À moins d'être familier avec les anciennes techniques agricoles ou de vivre dans des régions du monde où les animaux sont encore utilisés pour tirer des charrettes ou pour labourer les champs, peut-être ne savons-nous pas grand-chose sur le joug. Nous allons donc explorer à quoi la Bible fait référence lorsqu'elle parle du joug et comment cela pourrait s'appliquer à nous aujourd'hui. Commençons par examiner ce qu'est un joug. Le dictionnaire de l'Académie française le définit ainsi. Le joug est une pièce de bois que l'on pose sur la tête des bœufs et de certains autres animaux de trait et avec laquelle ils sont attelés pour tirer un chariot ou une charrue. Le joug est donc littéralement une pièce de bois qui enserre la tête ou le garrot des animaux de trait. Ce joug était relié au moyen de barres ou de sangles à l'outil qui était tiré ou utilisé. Cela permettait de garder sous contrôle les animaux pour les guider dans la direction souhaitée, que ce soit pour labourer un champ, pour tirer une charrette ou une charge quelconque. Au moins sommes-nous sans doute familiers avec ce concept du joug. C'est le concept du joug qui réunit deux animaux. Et c'est la deuxième chose que nous pouvons comprendre à propos du joug. Le joug relie deux choses ensemble. Premièrement, un joug représente cet outil de liaison, et deuxièmement, un joug relie deux éléments ensemble. Dans le Nouveau Testament, le mot grec pour joug est zugos, qui peut s'écrire Z-Y-G-O-S en français, et zygos ou joug peut être en grec un nom ou un verbe. La racine du mot zevnimi, couple, signifie joindre. Un joug sert donc à relier deux éléments ensemble, ou plus de deux choses dans certains cas. Il s'agit donc de joindre ensemble. J'aimerais que vous vous reportiez avec moi dans Apocalypse chapitre 6 et au verset 5, et nous verrons que le verbe signifie « joindre deux choses ensemble ». Ainsi, le joug joint deux animaux ensemble. Apocalypse chapitre 6, verset 5. Ce verset peut sembler être un endroit inhabituel vers lequel se tourner, mais examinons cela de plus près. Apocalypse chapitre 6, verset 5. Le contexte est ici l'ouverture des sceaux. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens et vois ». Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Alors, vous pourriez vous demander quel est le rapport avec un joug. Il continue en disant ceci, verset 6, « Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » En d'autres termes, il y a un équilibre ici, une pesée qui s'exerce et qui ajoute au symbolisme. Et donc, dans ce cas particulier, le zugos ou le joug, c'est ce bras, cette poutre qui relie les deux plateaux de la balance. L'image symbolique de la justice est célèbre, celle d'une femme aux yeux bandés qui tient un zugos, le bras d'une balance pesant le bien et le mal de manière équitable. Elle a donc les yeux bandés, mais ce qu'elle tient, auxquels sont reliés les poids et les plateaux, c'est le zugos, le joug, ou dans ce cas, le bras, qui relie ensemble les deux plateaux de la balance. Autrement dit, ces deux plateaux de la balance sont reliés l'un à l'autre, et le bras assure l'équilibre, les deux plateaux étant de poids égal. Ou elle peut être déséquilibrée, un plateau étant plus lourd que l'autre. Ainsi, lorsque de l'argent était placé sur l'un des plateaux de la balance, un poids égal devait être placé sur l'autre plateau pour que l'équilibre soit assuré. Maintenant, nous pourrions nous demander pourquoi utilise-t-on des joues? Pourquoi attacher deux animaux ensemble? Eh bien, parce que deux animaux unissant leurs forces peuvent accomplir beaucoup plus de travail. Ils peuvent tirer des instruments plus lourds. Ils peuvent tracter des charges plus lourdes. Ils peuvent porter plus de poids et accomplir plus de travail. Lorsqu'ils sont attelés ensemble, ils peuvent tirer bien plus que deux fois leur charge individuelle. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai lue au sujet des puissants chevaux de trait de la race Clydesdale. Ce sont d'énormes chevaux pesant parfois jusqu'à une tonne à eux seuls, et pourtant un seul cheval de la race Clydesdale peut apparemment tirer ou hisser une charge allant jusqu'à 4 tonnes, soit 4 fois son propre poids. Mais imaginez maintenant que si vous atteliez deux de ces chevaux ensemble, vous pensez sans doute qu'ils pourraient accomplir deux fois plus et doubler cette charge de traction, soit un total de 8 tonnes. pour deux de ces animaux massifs et musclés, eh bien, tel n'est pas le cas. En fait, lorsque deux de ces animaux massifs sont attelés ensemble, ils peuvent en réalité déplacer plus de trois fois le poids que l'un d'eux pourrait tirer seul. Ils peuvent donc tirer jusqu'à 12 tonnes en étant attelés ensemble. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que lorsque ces deux chevaux de trait sont entraînés ensemble pendant une bonne période et qu'ils travaillent côte à côte de manière régulière, alors leur capacité de traction peut augmenter jusqu'à 14 tonnes. Soit quatre fois le poids de chacun d'eux, ou que chacun d'eux pourrait tirer seul. Les joues sont donc une invention très bénéfique lorsqu'ils sont utilisés correctement, c'est-à-dire reliant ensemble deux forces égales et bien assorties. Passons maintenant à la troisième définition. Un joug, comme nous l'avons déjà vu, peut également représenter la servitude. Un joug peut représenter la servitude. En d'autres termes, nous comprenons comment le sens figuré en est venu à signifier la servitude ou l'esclavage, placé sur un être humain pour le forcer à travailler. Le joug devient alors un symbole de servitude. Reportez-vous, si vous le voulez bien, au chapitre 26 du livre du Lévitique. Dieu utilise ce symbolisme dans les Écritures à l'époque de la servitude d'Israël en Égypte. Lévitique 26, à partir du verset 9. Souvenez-vous que ce chapitre révèle les bénédictions que Dieu accorde pour l'obéissance, mais il énumère aussi les malédictions qui accompagnent la désobéissance. Et regardez aussi au verset 9, le symbolisme impliqué dans certaines des images ici. Verset 9. « Je me tournerai vers vous, et je vous rendrai fécond, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. » Ou en d'autres termes, ces bénédictions pour l'obéissance sont incroyables. « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. » Et puis remarquez ce qui est dit dans la dernière partie du verset 13. « J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. » Les humains peuvent avoir des joues placées sur eux. C'est un symbole de l'esclavage et de la servitude. Peut-être avez-vous vu déjà des joues de ce genre. Ils ne sont pas tous mauvais. En effet, quand une personne veut porter une charge plus lourde, mais impossible à prendre avec ses seules mains, elle fabrique un joug, un bras qu'elle place sur ses épaules pour porter ses charges équilibrées de chaque côté. C'est une façon de porter un poids beaucoup plus élevé qu'avec les mains. Ses épaules sont bien plus fortes que ses bras. Ainsi, un joug peut être placé sur quelqu'un qui a été asservi. Reportez-vous avec moi au premier livre des Rois, où se trouve un autre exemple que vous connaissez sans doute. Au chapitre 12 du premier livre des Rois, il est question de ce joug en tant que symbole dans les paroles du jeune roi Roboam, fils de Salomon. Et bien sûr, à cause de certains péchés de son père, Dieu a dit qu'il diviserait le royaume. Il laisserait une petite partie aux descendants de Salomon, mais le groupe le plus important des 10 tribus se rassemblerait sous un autre roi que Dieu choisirait. La manière dont tout cela s'est passé est particulièrement intéressante. Dieu a permis que l'entêtement, l'orgueil, le manque d'humilité de Roboam finissent par motiver et alimenter la division entre Israël et Juda. Ici, dans 1 Roi, chapitre 12, verset 1, nous lisons que Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Roboam allait donc bien devenir roi. Verset 2, lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui, loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. Verset 3, on envoya appeler, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam. Jéroboam s'était opposé ouvertement à Salomon et aux impôts élevés qu'il avait imposés au peuple d'Israël. Et c'est lui, Jéroboam, qui a déclaré « c'est trop ». Ils lui parlèrent ainsi au verset 4, « Ton père, remarquez le ton qui est employé ici, ton père a rendu notre joug dur, en d'autres termes, cela ne nous a pas dérangé de travailler ou de contribuer, mais c'est oppressant. Nous ne pouvons pas soutenir ce poids, le poids du joug, plus longtemps et rester debout. » Or, dans ce cas, la servitude envers le roi se présentait bien sûr sous la forme des impôts. Verset 4, « Ton père a rendu notre joug dur, toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que tu nous as imposé, que nous a imposé ton père, pardon, et nous te servirons. » Autrement dit, si tu diminues les impôts et si tu allèges le fardeau, alors nous te servirons. Mais regardez, comment ont-ils dit cela? Quelle image ont-ils employée? Le joug. Nous sommes sous la servitude du roi. Nous sommes les esclaves du roi. Pourrions-nous dire, des serviteurs pour le moins. Alors, verset 5, il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et vous vous souvenez ensuite de ce qui s'est passé. Le roi consulte les anciens, les conseillers de Salomon qui lui disent, regarde, fais ce qu'ils demandent, enlève ce joug de leurs épaules, ou du moins allège-le un peu, afin qu'ils te servent. Et puis, Roboam, bien sûr, va voir ensuite les conseillers plus jeunes. Verset 10, « Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. C'est-à-dire, c'est toi le chef. Tu dois leur faire comprendre que c'est toi qui commandes. Pour eux, il s'agissait de choisir Roboam et non pas de servir le peuple. » Verset 11, « Maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. » C'est exactement ce que Roboam dit à Jéroboam et aux autres. Verset 13, le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. En d'autres termes, le joug était un symbole de servitude. Vous m'appartenez, vous porterez la charge que je vous demanderai. Vous ferez ce que je vous dirai. Nous ne sommes pas amis, je suis le roi, vous n'êtes que d'humbles serviteurs. Ainsi, verset 15, le roi n'écouta pas le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achia de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Israël se sépare alors de la monarchie unifiée. Les 10 tribus du Nord font sécession et deviennent le royaume ou la maison d'Israël, laissant Roboam et ses descendants régner sur la maison ou le royaume de Juda, composé bien sûr de Juda, de Benjamin et d'une partie de Lévi. Et le joug représente ici la servitude. Il y a aussi un 4e aspect à propos du joug, et cela mérite d'être examiné. Porter un joug c'est souvent un acte involontaire, un acte involontaire. En d'autres termes, le porteur n'a pas le choix. Le plus souvent, un joug symbolique est imposé à une personne dans une relation de type maître et serviteur. Examinons 1 Timothée chapitre 6. Le plus souvent, le port d'un joug est involontaire. Il est imposé à une personne contre sa volonté. Et c'est ce que nous allons voir ici dans 1 Timothée chapitre 6. L'apôtre Paul écrit en fait à Timothée et il lui demande de transmettre cette lettre à ceux qui étaient dans ce cas les esclaves domestiques de quelqu'un d'autre, ou peut-être la propriété de quelqu'un, ou qui étaient au moins sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Paul, apôtre, écrit à Timothée au sujet de tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage. Il leur dit, vous n'avez pas le choix. Ce joug vous est imposé. Alors, voilà comment gérer cette situation. 1 Timothée, chapitre 6, verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage, il parle ici des esclaves, c'est-à-dire de ceux qui sont contre leur volonté sous le contrôle de quelqu'un d'autre, sous le joug. Le verbe ici, intéressant, c'est le verbe subjuguer, qui est en fait emprunté du latin subjugare, qui signifie faire passer sous le joug, de sub, qui veut dire sous, et de jugum, qui signifie le joug. Il est donc intéressant que Cincinnatus ait fait symboliquement passer l'ennemi sous le joug pour le subjuguer. Cela voulait dire qu'il passait désormais sous le contrôle romain. Le joug est donc indépendant de la volonté de celui qui le subit. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, au verset 1, que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage, c'est-à-dire sous l'emprise d'un autre, que ceux-là regardent leur maître comme digne de tout honneur. Un esclave ne peut pas échapper au joug. C'est indépendant de sa volonté. Il est prisonnier. Alors, comment essayer d'améliorer cette situation autant que faire se peut? Rendez honneur à ce maître. Rendez honneur à ce maître. Effacez le ressentiment, la colère, la sournoiserie, la moindre tendance prenant une direction différente. Considérez ce maître comme digne de tout honneur. Mais pourquoi? Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Il s'agit donc de donner un exemple, même si le joug supporté n'est pas un choix personnel. Verset 2, et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent, d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Ainsi, même si la servitude était non volontaire, un chrétien devait faire quelque chose pour tirer le meilleur parti de la situation, pour honorer ceux qui avaient le contrôle sur lui. Alors, bien que ce passage parle de circonstances de type maître et esclave ou serviteur sous contrat, cette structure était courante au premier siècle de notre ère. Nous pouvons en appliquer les principes aujourd'hui. Ce joug était non volontaire. Reportons-nous à Deutéronome chapitre 28. Dans la Bible du rabbinat français, la Tanakh, remarquez ce qui est dit ici. Dieu parle à nouveau du joug. Rappelez-vous que nous avons lu plus tôt dans Lévitique 26 que si Israël était obéissant, Dieu briserait les liens du joug égyptien sur les Israélites. Eh bien, nous lisons ici un autre chapitre de bénédiction et de malédiction. Mais concentrons-nous ici sur ce qui se passe si Israël désobéit et ne suit plus ce que Dieu dit. Deutéronome chapitre 28, verset 47. Et parce que tu n'auras pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et contentement de cœur au sein de l'abondance. Alors là, maintenant, en tant que chrétien, je me dis, oh là, mon garçon, là, il faut que je sois sûr que je sers l'Éternel Dieu avec joie et avec allégresse, avec un cœur joyeux, très reconnaissant pour ce que Dieu nous a donné, m'a donné, très reconnaissant pour l'honneur d'être appelé dès maintenant, de comprendre la vérité, d'être capable d'enseigner la vérité. C'est une merveilleuse bénédiction, mais ici, il est dit à Israël, parce que tu n'as pas fait cela, tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et contentement de cœur, au sein de l'abondance, verset 48, tu serviras tes ennemis. Rappelez-vous de la troisième définition. Un joug représente souvent la servitude, que ce soit dans les Écritures, dans la littérature ou dans la réalité. Tu serviras tes ennemis, suscités contre toi par l'Éternel, en proie à la faim, à la soif, au dénuement, à une pénurie absolue. En d'autres termes, les choses iront très mal. Mais remarquez ensuite ce qui est dit également. Et ils te mettront sur le cou un joug, pas seulement un joug de bois, ce qui était typiquement le cas, et ils te mettront sur le cou un joug de fer, jusqu'à ce qu'il t'ait anéanti. Oui, les sanctions pour désobéissance sont énormes. Et il est donc évident que le joug, le plus souvent lorsqu'il s'agit d'être humain, a une connotation extrêmement négative. Si quelqu'un dit qu'il est vraiment sous le joug, cela signifie probablement qu'il est maltraité ou qu'il est surmené. Il n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire. Le joug est donc souvent quelque chose qui est subi contre la volonté de la personne. Il y a un autre point de vue biblique sur les jougs que nous connaissons tous, je pense. Il vient du Nouveau Testament. Il s'agit du fait qu'un joug peut être inégal ou peut être placé sous un joug mal assorti. Nous avons parlé plutôt de cette image de la justice et de la façon dont elle tient le joug, le bras de la balance. Il pèse la vérité, la droiture, la justice, et ces plateaux sont parfaitement équilibrés et sous le même bras, sous le même joug. Mais que se passerait-il si un plateau de taille donnée est en bois et que l'autre est en fer? Le joug serait inégal, il n'y aurait plus d'équilibre. Reportez-vous avec moi dans 2 Corinthiens et allons au chapitre 6. Vous connaissez certainement ce passage, je pense. Paul décrit ici un attelage disparate, comme il est dit dans la version second 21. Et regardons la version Darby, verset 14. Paul dit, « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti. » Et le mot « joug » désigne la barre elle-même, utilisée comme une image représentant la liaison, la connexion ou l'union entre deux personnes. Ainsi, Paul dit dans la version, maintenant la version second 21, verset 14, « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. » Maintenant, je pense que Paul tire probablement ce concept d'être sous un joug inégal, mal assorti, à partir de l'Ancien Testament. Parce que c'est là que Dieu l'a effectivement abordé. Dans Deutéronome chapitre 22, verset 10, Dieu dit « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble ». Alors, il est intéressant de lire les commentaires sur les raisons pour lesquelles Dieu a dit dans l'Ancien Testament, dans les lois civiles d'Israël, qu'on ne laboure pas avec un bœuf et un âne ensemble. Les rabbins ont toutes sortes d'explications à ce sujet. Certains vont dire que le bœuf était un animal impur et que l'âne est un animal impur. On ne mélange pas le pur et l'impur. C'est peut-être ce que Paul avait en tête lorsqu'il a écrit cela. C'est certainement possible. Mais ce sont aussi des animaux, notons-le bien, très différents. D'un point de vue pratique, un âne et un bœuf sont des animaux très différents, avec des forces, avec des tempéraments qui ne vont pas de pair. Un article avance même qu'un bœuf est doté de pattes avant très puissantes. Il tire essentiellement avec ses épaules, tandis qu'un mulet ou un âne possède des pattes antérieures très puissantes et pousse principalement avec son dos. de sorte que les deux animaux ne travaillent pas l'un avec l'autre. Un autre article mentionne que le bœuf trouve la laine de l'âne très gênante, très irritante. Le bœuf essaye donc constamment de détourner la tête vis-à-vis de l'âne, car il ne supporte pas l'odeur de son haleine. Je ne sais pas si c'est prouvé, mais je pense que c'est très intéressant, n'est-ce pas? Le fait qu'il détourne la tête, il va essayer de tirer dans une direction divergente. Et on va obtenir une perte d'efficacité dans le travail. On ne peut plus accomplir autant dans de telles conditions. En plus de cela, les deux animaux ont des constitutions différentes. Ils ont aussi des tailles différentes. Le poids de la charge ne sera donc pas réparti de manière équitable entre les deux animaux. L'un travaillera beaucoup plus dur que l'autre. Leur nature aussi est différente. Les bovins sont évidemment très différents des ânes. Les ânes sont solitaires, ainsi de suite. Ils sont seuls. Il faut donc veiller à ne pas être sous le même attelage. Ne labourez pas avec un bœuf et un âne ensemble, car ce n'est pas bon pour les animaux eux-mêmes. Paul, l'apôtre, retient donc ce principe. Il l'applique aux chrétiens, car tous ces principes doivent vraiment servir à notre apprentissage. Et il cite ici l'Écriture à un moment donné, et il dit « Tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain ». Et le principe qu'il en retire ici, c'est que ceux qui font le travail doivent être payés à la hauteur de leur labeur. Il continue en disant « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Ainsi, dit Paul, se lier, se mettre sous le même joug que les infidèles, c'est une chose très imprudente. Et ensuite, il en explique la raison. Il dit au verset 14, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, « Qu'y a-t-il de commun ? Comment peut-on vraiment être uni avec ce qui est injuste ? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» En d'autres termes, être très lié, disons, dans une relation d'affaires avec un non-croyant, c'est prendre une disposition très risquée, car le chrétien voudra toujours faire ce qui est juste, et les non-croyants préférant souvent faire ce qui est opportun plutôt que ce qui est juste. Il continue maintenant en disant ceci. Allons au verset 15. Verset 15, « Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ?» En substance, il dit que Christ et Satan sont à l'opposé l'un de l'autre. Comment associer ces deux visions ? Ou, écrit-il, quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Les deux sont simplement très différents. Et donc, nous irions dans des directions différentes. Et s'il était vrai que le bœuf trouve la laine de l'âne offensante, ne serions-nous pas souvent, nous chrétiens, offensés par la façon dont le monde fonctionne, sa tendance à faire les choses, sa façon de mener ses affaires? Et bien entendu, le principe s'applique aussi au mariage. Verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ainsi, au lieu de se lier très étroitement à un incroyant, disons dans une situation professionnelle ou même dans un mariage, il explique ici la conduite à tenir. Verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Nous appliquons aussi souvent ce principe de l'inégalité des liens au mariage et nous encourageons nos jeunes à se marier dans la foi pour leur bien et pour leur bénéfice. En agissant ainsi, vous mettez toutes les chances de votre côté en vous assurant que la personne que vous épousez a le même objectif spirituel de vie que vous, celui de faire partie de la famille de Dieu, d'atteindre le royaume de Dieu. C'est donc un principe de sagesse. On peut donc être sous le même joug, mais en recherchant un joug bien assorti. Et cela nous amène, en quelque sorte, à ce sixième domaine que j'aimerais aborder, à savoir le fait qu'un joug peut être heureux. Un joug peut être heureux. Il est vrai que lorsque le joug est inégal, le plus souvent, il n'est pas très joyeux. Il n'est pas heureux. Mais lorsqu'il est égal, lorsque ce joug est bien assorti, alors de grandes choses peuvent être accomplies. Encore une fois, vous n'attellerez pas un cheval de trait Clydesdale avec un petit poney Shetland. Ce serait une situation impossible. Mais avec deux animaux puissants, similaires, sous le même joug, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, vous pourriez leur faire accomplir beaucoup plus que s'ils étaient seuls. Et si nous appliquons ce principe au mariage, regardons cela juste un instant dans Éphésiens chapitre 5. Je pense que le principe est également présent ici. Un joug heureux, lorsqu'un mari et une femme peuvent tout partager dans le mariage, et certainement lorsqu'ils peuvent partager la chose la plus importante dans le mariage, à savoir la poursuite du royaume de Dieu. Ce joug, joignant les deux ensemble, peut être absolument formidable, joyeux, heureux. Et c'est ainsi que Dieu désire qu'il soit. Éphésiens chapitre 5, verset 30. Éphésiens 5, 30. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous avons dit que le mot « joug » peut joindre deux choses ensemble, ce qui fait partie du sens du mot. Nous pourrions donc dire qu'un mari et une femme sont sous le même joug. Nous avons souvent encouragé nos jeunes filles, ici à l'Institut du Fondement, lorsque nous parlons de leur futur mariage, à faire attention à qui elles attellent leur chariot. En d'autres termes, choisissez judicieusement et avec soin, car cela affectera chaque jour de votre vie et pour le reste de votre vie. Et c'est une décision importante à prendre. Donc, il est dit que les deux sont unis ensemble. Le mari quitte son père et sa mère, il est uni à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Je pense donc à cette analogie comme à un puissant couple de chevaux de trait de la race Clydesdale qui sont attelés ensemble. Un homme avec sa femme spirituellement forte. Et parce qu'ils sont attelés ensemble, ils peuvent accomplir quatre fois plus que ce qu'ils pourraient faire seuls. Ils sont unis ensemble et c'est une relation joyeuse. Il continue en disant au verset 32, « Ce mystère est grand ». Je veux dire, à ce jour, la science ne comprend pas vraiment comment deux animaux peuvent tirer 4 tonnes à eux seuls et ensuite tirer 4 fois plus de poids ensemble. C'est un mystère dans un sens. Et ce mystère du mariage, quand le mariage est bien fait, c'est une relation absolument formidable, magnifique. Deux personnes qui s'unissent également sous le joug de Dieu accomplissent de grandes choses pour elles-mêmes, pour leur famille, pour l'Église et très franchement pour la nation, pour le monde, certainement pour le royaume à long terme. Verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, le mariage est conçu pour être ce joug égal joignant deux personnes ensemble. Et il représente la relation entre ce joug parfait de Christ et de l'Église, ce rapprochement, cette union en un seul. Ainsi, deux bovins, deux bœufs attelés ensemble sont appelés un couple. Ce n'est pas seulement une paire de bœufs, c'est désormais une équipe. Car s'atteler ensemble peut et devrait être joyeux lorsque les chrétiens nous des relations étroites et travaillent ensemble. On accomplit de grandes choses. On crée aussi une grande complicité, de la joie, une réelle solidarité. Et c'est certainement ce que nous voyons dans nos diverses activités. nos activités FOI, où les gens se réunissent pour servir, pour travailler. Il en résulte une proximité, un lien qui peuvent certainement faire de cet attelage un accomplissement très heureux. Allons ensemble au chapitre 4 de Philippiens. Philippiens chapitre 4, quelques pages plus loin, tant que nous en sommes dans Éphésiens ici. Philippiens chapitre 4 est remarqué au verset 1. Paul fait souvent référence à ses conceptions, à ses compagnons, pardon, de travail, ses compagnons de travail comme étant des collaborateurs. Et il utilise aussi un autre terme qui, je pense, pourrait peut-être vous surprendre. Philippiens, chapitre 4 et verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et mes très chers frères, il écrit ici un message profond et sincère aux frères de l'église de Philippe. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie, ma couronne, il est content de ces personnes, il est satisfait. Demeurez, dit-il, ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et puis, je suppose qu'avec cette déclaration liminaire, très chaleureuse, au début du chapitre 4, il doit la faire suivre d'une petite correction. Car apparemment, il y avait là deux femmes qui ne s'entendaient pas très bien. Et elles auraient dû être unies par le même cœur, par le même esprit, pour servir le peuple de Dieu. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Alors, Paul a dû envoyer cette petite correction. Verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et il n'en dit pas plus. En d'autres termes, il dit « Je veux que ces deux personnes travaillent ensemble ». Il les appelle publiquement parce que je suppose qu'il y avait peut-être un désaccord public entre elles et qu'elles n'étaient pas correctement attachées l'une à l'autre. Il leur demande donc en substance de se mettre sous le même joug. Agissez de concert, ayez le même sentiment. Verset 3, « Et toi aussi, fidèle collègue, et peut-être ici s'adresse-t-il à une personne en particulier. « Oui, dit-il, écrit-il, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi. » Il demande donc à tout le monde de se mobiliser, aider ces femmes à comprendre la nécessité d'être ensemble, de se rassembler, de travailler ensemble au service de Dieu et de son Église. Bon, là, peut-être que j'extrapole un peu, mais je ne pense pas que nous allions trop au-delà du texte ici. Verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Alors, je vais revenir un peu en arrière, car nous ne voyons pas nécessairement dans la nouvelle édition de Genève les choses qui sont contenues ici. Quand il dit au verset 3, « Je t'exhorte, vrai compagnon », le mot littéral est « compagnon de joug ». C'est le mot grec « suzugos » qui signifie « sous le joug » un collègue. Et c'est pourquoi cette traduction l'appelle un compagnon. Mais littéralement, c'est un suzugos. C'est un individu placé sous le joug. Et il dit, « Je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. » Et littéralement, le mot ici est « sunergos ». Sunergos. En d'autres termes, cela veut dire collaborateur, collègue, compagnon de travail. Nous utilisons fréquemment le terme « collaborateur », en effet. Il ajoute « dont les noms sont dans le livre de vie ». Alors, ces deux mots, « collègue », « compagnon de travail », ont donc leur racine dans le mot « joug ». Nous sommes sous le même joug. Nous sommes ensemble. Aidez-moi, compagnons de mes travaux, sur le chemin. Ils étaient des compagnons placés sous le même joug dans le service de Dieu. Reportez-vous avec moi dans l'Épître aux Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1, est le tout premier verset du livre, ou de l'Épître. Romains, chapitre 1, verset 1. L'apôtre Paul se présente au début de la lettre, et il dit, il écrit ceci, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. » L'appel que Paul avait était puissant et il se sentait obligé de poursuivre cet appel dans le ministère, quelles que soient les autres conséquences qui pourraient en résulter pour lui ou pour ceux qui l'entouraient. Il devait suivre l'appel de Dieu. Et c'était une chose honorable, mais il se qualifie lui-même d'esclave. Il s'est volontairement mis sous le joug au service de Jésus-Christ. Il se dit « serviteur de Jésus-Christ ». Vous vous souvenez probablement de l'histoire de la conversion de Paul. Il était sur la route de Damas, comme vous vous en souvenez. Il était sur le point de continuer son processus d'emprisonnement et peut-être de meurtre de vrais chrétiens. Et à ce moment-là, Christ l'a frappé. Et quand Paul a demandé qui était là, la réponse a été essentiellement « Je ne vais pas te le dire maintenant, ce n'est pas ton affaire. Fais simplement ce qu'on te dit de faire. » Et Paul était donc soumis. Il s'est repenti. Il s'est alors volontairement soumis à ce joug au service de Christ, au service de l'Église. Et donc, c'était une chose très honorable à faire. Dans le livre de Jude, il est dit pratiquement la même chose, Jude au verset 1, et comme vous le savez, il n'y a qu'un seul chapitre dans cette lettre. Jude, verset 1 et 2. Alors, si vous utilisez une Bible électronique, ça sera Jude, chapitre 1, verset 1. Que dit-il pareillement? Jude, serviteur ou esclave de Jésus-Christ, frère de Jacques. Et puis, il écrit à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Il est donc possible de se mettre volontairement sous le joug de Dieu, de Christ, et du peuple de Dieu, de l'Évangile, de l'œuvre du grand Dieu, de la prédication de l'Évangile dans le monde entier. On peut volontairement se mettre sous le joug, se soumettre donc au joug de Dieu, au joug de Jésus-Christ. Et cela nous amène à notre conclusion. Et c'est ce que j'ai dit ici. Peut-être que vous n'avez pas proposé 7 points différents dans mon sermon, mais j'en ai noté 7. Choisissez votre joug avec sagesse. Choisissez votre joug avec sagesse. Vous savez, parfois ici aux États-Unis, notre indépendance, eh bien, nous en faisons tout un plat. Comme si nous n'étions jamais esclaves de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Mais revenons maintenant au chapitre 26 de Lévitique. Nous en avons déjà parlé, mais sans insister sur ce que nous allons souligner maintenant dans ce verset particulier, nous avons revu certaines des bénédictions promises par Dieu pour l'obéissance, mais remarquez ici au verset 13, dans la version Osterwald, Dieu dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, afin que vous n'y fussiez plus esclaves. » Or, que dit Paul? Et que dit Jude? Ils répondent, « Je suis un esclave. » Vous voyez donc, les êtres humains sont toujours esclaves de quelqu'un ou de quelque chose, et peut-être même sans le savoir. Paul était un esclave, un serviteur de Jésus-Christ, comme l'était Jude lui aussi. Dieu attendait d'Israël qu'il soit ses serviteurs, qu'il fasse sa volonté. Vous voyez, les êtres humains ne sont que des êtres humains. Nous sommes toujours sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Et il y a deux puissances spirituelles dans l'univers. Deux puissances spirituelles, l'une qui est très bienfaisante et l'autre qui est vraiment très mauvaise. Et nous sommes esclaves soit de l'une, soit de l'autre. Il dit au verset 13, dans la seconde moitié du verset, « J'ai brisé les liens de votre joug. » Les liens de votre joug. C'est une phrase intéressante. Nous pensons peut-être que cela veut dire que le joug a été complètement détruit, mais ce n'est pas ce qui est dit. Les liens étaient ce qui était relié au joug pour que le conducteur puisse guider les animaux là où il voulait aller. Il pouvait s'agir d'une perche ou des lanières de cuir. C'était les liens du joug. Alors le joug était toujours là, mais ce ne sont plus les Égyptiens qui tenaient les rênes. Désormais, ce serait Dieu qui les conduirait dans le désert, vers la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Dieu les y conduirait, mais ils devaient obéir à sa direction. Ainsi, il n'est pas dit ici « J'ai brisé votre joug », mais plutôt ceci « J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée ». Les lourds fardeaux que les Égyptiens leur imposaient n'étaient plus d'actualité. Ils pourraient désormais vivre dans la joie sous le joug de Dieu. C'est pourquoi il est question au début du chapitre de toutes les merveilleuses bénédictions que l'obéissance apporte. Lorsqu'il y a un mariage heureux, les avantages qu'il procure sont tout simplement merveilleux. Ainsi, lorsque le joug est guidé par le bon dirigeant, la situation peut être heureuse. Israël était encouragé ici à suivre la loi de Dieu. Ils n'avaient pas de joug, mais ils se soumettaient au bon maître. C'est pourquoi les conditions de l'obéissance sont données, et alors ces choses merveilleuses peuvent se produire désormais. Mais terminons maintenant en lisant Matthieu chapitre 11. Vous saviez que nous arriverions à ce passage des Écritures, un jour ou l'autre. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, 28, vous remarquerez que la majeure partie du chapitre 11 est, si vous avez une Bible avec des lettres rouges, sur les mots que Jésus a lui-même prononcés pour les séparer du reste du texte en noir autour, si vous avez une telle Bible en lettres rouges, vous remarquerez que ces mots sont tous en rouge. Et Christ fait cette déclaration à propos du joug. Que chaque être humain a un joug. Soit vous serez guidé par le mal, par Satan le diable, par les voies de ce monde, soit vous serez conduit avec ce joug sur vos épaules, conduit par Jésus-Christ, accomplissant les œuvres de votre maître. Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Vous tous qui êtes chargés. Maintenant, beaucoup d'entre nous, nous travaillons dur. Mais j'espère que nous ne sommes pas accablés, que nous ne sommes pas écrasés par les situations auxquelles nous sommes confrontés, par les choses qui se passent dans nos vies et dans celles de nos proches. Mais si c'est le cas, ce n'est pas grave, car Christ continue en disant « Et je vous donnerai le repos, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. » Voyez, ce n'est plus le contremaître. Il n'est plus nécessaire que ce soit le cas comme lorsque les Égyptiens ou Satan le diable continueraient de nous pousser, de nous accabler, continueraient à nous faire souffrir. Comment Christ nous donnera-t-il du repos? Comment le fera-t-il? Rappelez-vous, chaque être humain porte un joug. La question est, qui nous guidera? Christ dit qu'il nous conduit comme un berger qui prend soin de ses brebis, avec bienveillance. Alors il dit au verset 29, « Prenez mon joug ». Ici, le symbolisme, c'est presque si nous pouvions nous débarrasser du joug de ce monde et de Satan le diable, mais nous ne pouvons pas vivre sans joug. Il n'existe rien de tel. Et il dit, prenez mon joug. Laisse-moi être ce responsable, celui qui te guide et celui qui te dirige. Verset 29, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, non pas celles d'un maître sévère, car, dit-il, je suis doux et humble de cœur. Quand vous avez ce guide humble qui vous conduit, ce grand guide, c'est une situation vraiment appréciable. Il comprend les pressions auxquelles nous sommes soumis. Il sait ce qu'un humain ou ce qu'un animal peut supporter. Et il dit, vous trouverez le repos. Pas nécessairement pour notre corps, nous devons encore travailler. Il dit, vous trouverez le repos pour vos âmes. Nous sommes nombreux à travailler ensemble, à servir le peuple de Dieu et à aimer le faire, parce que nous le faisons dans ce but. Peut-être aimez-vous votre travail parce que vous pouvez servir et aider les autres. C'est une chose merveilleuse. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Verset 30, « Mon joug, car mon joug est doux. » Encore une fois, en comparaison du joug venu du monde. « Et mon fardeau est léger. » Il y a encore un fardeau, mais il est léger parce qu'il a une direction qui mène au royaume de Dieu. Il mène à la vie éternelle, et c'est un fardeau merveilleux à porter. Nous sommes heureux de respecter la loi de Dieu. Et si d'une certaine manière nous considérerions éventuellement cela comme un fardeau, parce que nous en connaissons les résultats, c'est bon pour nous, pour tout le monde autour de nous et pour le royaume. Il n'y a aucun fardeau là-dedans. C'est un travail, nous devons porter ce fardeau volontairement, mais choisissons-le avec sagesse. Et nous nous encourageons, bien sûr, les uns les autres à porter ce joug. Et pourquoi dit-il que c'est doux? Mon joug est doux, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui nous fortifie. En tant que compagnon de joug, il nous donne la force de porter la charge du travail. Il n'est pas du tout un esclavagiste. Oui, il y a du travail à faire, mais lorsque nous nous unissons à d'autres personnes ayant le même cœur, ayant le même esprit, et que nous sommes animés par le Saint-Esprit de Dieu, nous accomplissons beaucoup plus. Nous avons tous été réunis, frères et sœurs, dans cette grande équipe pour accomplir l'œuvre que Dieu a confiée à son Église. Nous désirons tous profondément continuer à travailler ensemble sous le joug de Dieu, en harmonie et avec force, en accomplissement de ce travail en équipe. De nombreux fils et filles seront amenés à la gloire. Il n'y a pas de plus grande œuvre sur terre aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, prenez le joug de l'œuvre de Dieu et de sa voix. Servez-le avec zèle et énergie. Voyez l'œuvre avancer et portez le joug doux et léger que Jésus-Christ a placé sur nous.